Yo, Nasty Sammy et Seb pour un nouvel épisode du podcast Smells Like Teen Music. Salto arrière dans la culture musicale des années 90 pour commencer une période estivale qui s'annonce bien chaude. Le principe est toujours le même, une playlist commentée qui fait la part belle au grunge, à la Britpop, au rock indé, au rock alternatif, à la power pop et aux sonorités typiques des années qui s'étalent de 1990 à 1999. Seb, est-ce que ça roule?
Ça roule super bien, Sam. Très content de te retrouver, d'autant que ça fait quelques semaines qu'on s'était pas croisés.
Ouais, donc dû à un planning une fois de plus assez extrême. Donc on a passé un mois, hein, je crois que la dernière émission date il y a un mois et demi.
C'est bien ça, ouais, il y a un mois et demi, ouais.
Voilà, mais bon, hein, on est là pour se faire plaisir, donc on fait ça quand on peut. c'est le principe de l'émission. Donc là, c'est l'été, hein, un petit saut en arrière, comme je disais, dans la culture musicale qu'on aime, pour se rafraîchir, hein, tout simplement. Je pense que ça va faire le taf. On attaque la sélection avec Frank Black, le morceau Men in Black, extrait de l'album The Cult of Ray, sorti en 1996. Un album que j'ai acheté alors que j'étais en classe de terminale au lycée en format cassette. Troisième album du leader des Pixies, qui à l'époque sont séparés depuis quelques années déjà. Ce titre, Men in Black, c'est le single de l'album. On y trouve tout ce que j'aime chez Frank Black, le côté ultra catchy, très pop, mais avec une approche très péchue, hein, gavée de fulgurances rock'n'roll, jouée frontalement, avec une production assez rêche, hein, il faut quand même l'avouer. The Cult of Ray, c'est mon album préféré de sa carrière solo, hein, je le précise, bien que les deux précédents soient également d'excellentes factures. Je les conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Le titre de l'album The Cult of Ray fait référence à un auteur, Ray Bradbury, hein, un clin d'œil au monde de la science-fiction. Et le titre de ce single, Men in Black, c'est également, ça traite des délires ufologiques, hein, auxquels Frank Black était plutôt très sensible. Hein, pour ceux qui s'intéressent à Pixies et à sa carrière solo, ses lyrics sont striés de références donc à la science-fiction et aux délires aliens, etc., etc. Voilà. Donc je précise aussi que la pochette est une des plus laides de
Ah,
l'histoire
tu me fais plaisir, Sam, parce que
de la musique. Alors putain, ouais, c'est quand même vraiment
c'est ce que
stretch.
j'allais te dire.
Ouais.
Mon Dieu, qu'est-ce que cette pochette est dégueulasse.
Ouais, c'est ça, donc espèce de pochette faite sur une première version de Paint dans les années 90, voilà, avec une typo dégueu, mais bon, hein, on ne juge pas un livre à sa couverture, tu connais l'expression.
Tout à fait, ouais.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, ben, de toute façon, à Frank Black, on va pas revenir sur l'héritage de Pixies, etc., etc. Si vous écoutez ce podcast, je pense que vous êtes à même de connaître le personnage et sa carrière. Mais je rappelle quand même que c'est un des plus grands songwriters du rock indépendant américain. Je précise aussi que j'ai vu les Pixies lors de l'année de la reformation en 2010 à Austin et que j'en garde plutôt un bon souvenir. Hein. Donc j'ai dû voir les tout premiers concerts, je pense les cinq premiers concerts. Et il y avait Kim Deal dans le line-up qui n'était pas resté bien longtemps. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce Frank Black, Seb?
Bah écoute, ça va être un petit peu compliqué pour moi parce que je suis pas un grand coutumier de l'œuvre solo de Frank Black.
Ah bon?
Je crois que sorti de The Cult of Ray et Teenager of the Year, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Cela dit, ouais, voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Un énorme songwriter, un type absolument incontournable quand on veut parler des 90s. Et puis voilà, puis il y avait, je voulais te dire aussi pareil, cette pochette bien dégueulasse, mais un très très bon album.
Voilà, c'est ça. Et moi, je précise que quand je dois réécouter un morceau de Frank Black, je tape très facilement, plus facilement dans son œuvre solo. Hein. Bizarrement, j'ai un peu du mal à réécouter les Pixies. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai fait le tour et que ça me renvoie peut-être trop à un truc rétro-nostalgique. Donc, je préfère réécouter Frank Black en ce qui me concerne. On écoute ce morceau Men in Black.
Believe it, you better. I got their number. Classic camcorder I saw. Everything. Dinner plate specials. The
pour ce deuxième morceau de l'émission, c'est à mon tour d'envoyer du son et j'ai choisi Feel the Pain de Dinosaur Junior. Là, on va remonter à 1994. Ben, c'est un choix qui, en ce qui me concerne, a été complètement dicté par l'actualité. Puisque tu dois le savoir, Sam, on attend pour le mois d'août le 11e album de Dinosaur Junior. Il s'appelle Give a Glimpse of What You're Not. Ça sera quand même le 11e album, ce qui vient couronner quelque chose comme 32 ans de carrière, je crois. Donc, ben, on se rend compte que le groupe, finalement, il a jamais aussi bien porté son nom parce que finalement, c'est en train de devenir un vrai dinosaure du rock indé, ce trio. Et puis, bon, le côté junior, ça reste toujours d'actualité avec cette attitude de slacker éternel de James Keith et Lou Barlow et puis le batteur Murph. Alors, pour moi, ben, Dinosaur Junior, c'est un groupe que j'adore. Je crois qu'il ne doit pas passer une semaine sans qu'un album de Dinosaur Junior tourne à la maison. Alors, les puristes, ils vous diront que les meilleurs albums sont les premiers, ceux qui étaient sortis chez SST à la fin des années 80. Bon, personnellement, moi, j'ai une tendresse particulière pour ceux qui sont sortis pendant la première moitié des 90s et surtout Without a Sound, d'où mon choix de ce fameux Feel the Pain qui dès qu'il résonne en fait me fait hérisser les poils des mains et aussi me fait vraiment toujours me procure vraiment toujours vachement d'émotions à la fois ce morceau et à la fois cet album.
Ouais, donc alors moi je suis d'accord avec toi, les albums sortis dans les années 90, donc ils n'ont pas le line-up originel hein, finalement. Il y a le batteur, Murph qui apparaît.
Barlow était parti.
Ouais. Pour moi c'est également la période que je préfère, c'est des disques que j'ai achetés à l'époque, donc ça aide aussi, hein. C'est des disques qui sont chargés d'une histoire et qui nous suivent, donc forcément bon, ben, on attache peut-être un peu plus d'importance à ça. Je préfère ces albums des années 90 aux albums après la reformation aussi, il y a du bon, je pense notamment à Beyond, mais je trouve que les albums se suivent, se ressemblent, c'est toujours la même formule, toujours la même production, un peu cheap, toujours le même jeu, toujours la même sonorité, toujours... voilà, donc je reste sur les albums des années 90 qui étaient pour moi étaient un peu plus explosés, mieux produits et peut-être un petit peu moins monolithiques. Voilà, pour ce qui est de Dinosaur Junior. Moi, mon album préféré, clairement, c'est Green Mind. Pour moi, il est intouchable, cet album. Tout ce qu'il a fait après, c'est moins bon. Voilà, c'est un groupe que j'ai vu deux fois en live aussi. Je les ai vus il y a 10 ans et je les ai revus le mois dernier. Avec un pote en Suisse allemande, donc en live, c'est un groupe, c'est un groupe qui est un petit peu à l'image de son de Jay Massis, hein, du guitariste chanteur. C'est un groupe qui est pas très qui est singulier. Non mais je cherche mes mots parce que c'est difficile à expliquer parce que c'est pas un mauvais groupe, hein. Ce que j'expliquais dans un post sur Facebook, c'est que dans le live, il y a des choses vraiment nulles. Pour moi, je dis nul. Et il y a des fulgurances géniales, quoi. C'est un espèce d'équilibre fragile de génie et de trucs très bizarres et très cheap. Donc, ça joue pas très bien. C'est fort. Le son est toujours pourri. Voilà, une espèce de noisy pop qui est rêche, bien wild. Mais de temps en temps, il y a des refrains qui arrivent et tout le monde est subjugué, quoi. Donc, voilà. C'est quand même un des rares groupes qui arrive encore à faire ça. Il y a absolument aucun contact entre les trois membres de ce groupe-là. On sent que depuis la reformation, de toute façon, ce n'est pas des gens qui s'apprécient vraiment. Et il n'y a vraiment aucune interaction. Donc sur scène, il n'y a absolument rien à regarder. Les mecs ne bougent pas d'un poil. Ce n'est pas du tout généreux. Par contre, ils jouent 1h30. Les titres s'enchaînent. Ils jouent comme si c'était dans un local de répète, hein, finalement, comme s'il n'y avait personne devant eux. Et ils s'en foutent un peu. Voilà. C'est un peu sloppy, c'est un peu dissonant, c'est... ce qu'on leur passe, on leur passerait pas à un groupe, un jeune groupe, un groupe récent, si tu veux, tu vois. Si c'est pas Dinosaur Junior, tu vois un concert comme ça, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils branlent ce groupe sur scène.
Tu vois, c'est exactement ce que je pense. C'est en fait un petit peu un genre de phénomène générationnel, quoi. Pour nous, ça nous ramène directement à cette époque et ouais. C'est ce qui nous touche aussi, quoi.
Oui, mais il y a une certaine véracité dans ce qu'ils envoient aussi, tu vois. C'est une pureté qui est une n'existe plus dans le music business où il faut que les groupes ils soient super tight, où il faut qu'il y ait un son très maîtrisé, où il faut que ça soit presque chorégraphié, tu vois. Là, c'est vraiment tout l'opposé, quoi. Donc, il y a un presque un côté 70 dans le côté on arrive. Et on sent le côté un peu Neil Young, tu vois aussi, Neil Young, un peu ce qu'il renvoyait, c'est un peu ça aussi, quoi, ce côté un petit peu live et très très organique. Mais donc ça peut être catastrophique, comme des fois ça peut être très très beau et très touchant. Voilà, donc sur 1h30, grosso modo, tu te fais chier 50 minutes et le reste est là. Et t'as des bons frissons, quoi. J'ai quand même préféré le dernier live que j'ai vu le mois dernier en Suisse allemande, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Genève, en Suisse également. Mais là, j'avais pas aimé du tout, voilà. Donc, je m'étais un peu fermé du groupe. C'est l'effet que ça me fait généralement quand je vois un groupe que j'adore, hein, puisque Dinosaur Junior, c'est un groupe que j'adore. Mais quand je suis vraiment déçu d'une prestation sur scène, j'ai du mal à reposer les disques après, si tu veux, quoi. La magie, elle casse un peu. Donc, des fois, je préfère même pas voir les groupes, tu vois. C'est un peu comme rencontrer les gens que t'apprécies vraiment, et puis s'ils sont décevants, tu vois, ça brise un truc, quoi. Et c'est un peu comme ça pour les groupes que j'apprécie. Mais bref, tout ça pour dire que Dinosaur Junior, c'est un groupe très singulier. Ils l'ont toujours été, ils le resteront. Et voilà, j'attends le prochain album, sans trépigner non plus. Celui d'avant, je l'ai pas eu. Celui encore d'avant, je l'ai écouté, mais je ne l'avais pas acheté. Donc là, je suis ça d'une manière un peu distraite. Mais quand je dois poser des disques de Dinosaur Junior, je pose les trois albums qui sont sortis dans les années 90. Et j'aime bien aussi la carrière solo fin 90 de Jay Mathis, quoi, où il jouait à peu près tous les instruments sur deux albums. On va s'écouter ça, Seb.
Allez, c'est parti pour Dinosaur Junior et Feel the Pain.
Thank you.
Transition avec Sebado, le morceau s'appelle Careful, extrait de l'album Bake Sale sorti en 1994 sur Sub Pop. C'est le cinquième album du groupe. Sebado, qu'est-ce que c'est? C'est le side project de Lou Barlow, le bassiste de Dinosaur Jr. Dans Sebado, cependant, il joue de la guitare. Ce morceau Careful est composé par le bassiste du groupe, Jason Lowenstein, et non par Lou Barlow, je le précise quand même. Sebado, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est une des figures de proue du genre indé lo-fi américain, aux côtés de Pavement, de Guided by Voices par exemple. Une espèce de power pop paresseuse, cagneuse et fragile, qui flirte avec la noisy pop. Voilà pour Sebado, un groupe que j'apprécie comme Pavement. C'est pas des trucs que j'écoute toutes les semaines, mais quand je sors les albums, généralement je les écoute 6 ou 7 fois d'affilée. Ce Bake Sale, c'est exactement l'effet que ça m'a fait. Sur la pochette, pour la petite anecdote, on peut y voir Lou Barlow qui a un an. Visiblement, c'est une photo qui a été prise par sa mère, donc alors qu'il était tout bambin. Je conseille également l'album qui est sorti l'année d'après, Armacy, en 1994.
Très bien aussi, ouais.
Ouais, et l'album éponyme sorti en 1999 sur une major qui était vraiment bien, moins lo-fi pour le coup, à peine plus calibré, mais un album exquis aussi. Qu'est-ce que tu as à dire sur Sebado, Seb?
Bah écoute, sur Sebado, et plus particulièrement sur Bake Sale, bah, c'est le classique de Sebado, celui qu'il faut avoir dans sa discothèque, si on est fan des 90s. Après, moi, perso, j'ai jamais été trop fan des albums précédents, parce que je l'ai trouvé justement un peu trop lo-fi, et je suis pas un grand fan de ce genre de zik. Mais ce Sebado-là, je le trouve plus abouti, finalement plus type ND, avec des vrais tubes à guitare, bien power pop, avec toujours ce côté un peu noisy en filigrane. Après, il y a aussi des ballades qui, quand tu les écoutes, elles te lâchent pas de la journée. Il y a des brûlots punky qui sont justement un peu, qui sont signés par le bassiste dont tu parlais. Donc voilà, pour moi, c'est carrément mon album préféré avec Armacy. Et c'est celui vraiment que je conseille à tout le monde, quoi. Les débuts lo-fi sont vraiment pas du tout ma came, tu vois.
Ouais, mais les morceaux étaient déjà là. C'est comme Pavement, si tu veux. Pavement, ça a commencé super lo-fi, puis avec les années, ça s'est un petit peu solidifié, on va dire. Pour synthétiser, moi, Sebado, on peut dire que d'un côté, c'est très frais, et de l'autre côté, ça donne le bourdon, quoi. C'est vraiment entre les deux au niveau émotion.
Ah, c'est chargé émotionnellement, c'est sûr. Hein.
On s'écoute ça, Seb. Sebado.
Allez, après Dinosaur Junior et Sebado, on va passer carrément à autre chose avec les King's X. J'ai choisi un morceau extrait de l'album Dogman, et j'ai même choisi le morceau qui s'appelle Dogman. Donc là, comme je vous disais, c'est 1994. Alors perso, je vais pas jouer les anciens combattants, j'étais pas vraiment en avance sur ce groupe, puisque je l'ai justement découvert avec Dogman, et j'étais en fait complètement passé à côté des premiers albums du groupe qui étaient sortis chez Megaforce. Que dire de King's X, ben, qui viennent du Texas, mais que leur particularité à eux, c'est plutôt de pratiquer on va dire un hard rock avec des sonorités un petit peu 70s mixées avec des choses un peu plus funk, on va dire, de la soul, du gospel avec des chœurs, un côté très 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 pop qui fait parfois dire à certains que c'est un petit peu les Beatles du hard rock de cette période-là. Bon, une petite anecdote, j'ai vu que Jeff Ament de Pearl Jam les avait présentés à l'époque comme les précurseurs du grunge, parce que dès la fin des années 80, ils avaient utilisé un petit peu les mêmes accordages que des groupes comme Soundgarden, par exemple. Bon, moi, perso, cette pseudo-filiation avec la scène grunge, je la vois pas trop, quoi. Je vois plutôt, effectivement, un super groupe de rock, hard, avec ce côté super bien pop, quoi, super bien léché et tout, puis un super chanteur. Alors après, pour revenir plus particulièrement à Dogman, c'est une histoire un petit peu bizarre, parce que ils avaient tout pour réussir à l'époque. Le disque, il est vraiment énorme. Il était produit par le producteur du moment, qui était Brendan O'Brien, qui avait bossé notamment avec Pearl Jam. Ils avaient un gros label qui était Atlantic. Je sais pas si tu te souviens, Sam, il y avait des chroniques qui étaient dithyrambiques partout, quels que soient les magazines, que ce soit des magazines typés metal comme Hard Rock Magazine, Hard Force, Hard Envy, ou même que ce soit des magazines un peu plus rock comme Rage ou Rock Sound, tout le monde disait du bien de cet album, et pourtant, ben, il n'y a pas eu un gros succès, pas plus que l'album suivant que personnellement je préfère et qui s'appelle Ear Candy. Alors du coup, voilà, ça reste quand même une grosse énigme que ce groupe qui avait tout pour réussir et qui finalement est retombé dans l'anonymat après ce court passage chez une major.
Ouais, je me rappelle clairement, ouais, quand c'était sorti, effectivement, il y avait quand même des pleines pages de pubs dans tous les magazines affiliés musique, rock, hard rock, alternatif, etc. Et effectivement, ça n'a pas pris en Europe. Pourquoi ? Parce que je pense vraiment un groupe américain par définition, hein. Il y a un côté très classique rock, très presque stadium rock, hein.
Ah oui.
Je pense qui fonctionne moins en Europe, et surtout à l'époque où c'est sorti, où clairement on allait plus d'un côté plus punk ou plus grunge, mais dans le sens bricolé, lo-fi, plutôt que cette espèce d'énorme machine de guerre, puisque en fait ça ressemble vraiment à un groupe de musiciens de session de studio, quoi, de professionnels, hein. Quand t'écoutes ça, ça joue grave, le batteur est monstrueux, le bassiste est monstrueux, le gratteux est monstrueux, et il y a un côté quand même stadium, mainstream, super radiophonique, je pense, qui à l'époque était un petit peu déplacé, quoi. Je pense que ça serait sorti dans les années 80, tu vois, 87, 88, 89, ça aurait été plus à sa place, tu vois, plus à son époque. Mais là, je pense un petit peu en retard, les mecs. Effectivement, il y a des groupes qui tapaient un petit peu, pas dans la même gamelle, mais on va dire avec les mêmes influences, c'est-à-dire le classic rock des années 70, genre Soundgarden, etc., etc., mais qui le faisaient d'une manière quand même un peu plus rêche, un petit peu moins fat, quoi, tu vois, un petit peu moins arrogante, quoi. Donc je pense que c'est ça. Mais moi, c'est un groupe que j'ai bien aimé aussi, je l'ai plus, hein. Je l'avais découvert ça quand, à mon arrivée à Besançon, j'avais loué le CD à la médiathèque. Je l'avais copié, c'est un scud que j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu lisse quand même quand tu réécoutes ça, tu vois.
Ah, c'est ultra produit, c'est clair.
Voilà, ultra produit, et même dans les compos, il y a des trucs un poil facile, même si c'est tout le temps bien joué, bien arrangé. Voilà, il y a un côté effectivement dépassé, voilà, qui a mal vieilli. Mais en tout cas, un putain de groupe, et en tout cas, un énorme respect pour ces musiciens. On sent que c'est des mecs qui étaient sur la route, qui ont dû s'enfiler des centaines et des centaines de dates dans des clubs. Et pour ça, ils auront toujours mon respect. Mais il faut que je le réécoute, du coup, là, ça fait de nombreuses années que j'ai pas réécouté cet album-là.
Eh bien écoute, ça va être l'occasion, on s'écoute donc tout de suite King's X avec Dogman.
Vers d'autres sphères musicales avec Good Riddance. Le morceau s'appelle Boys and Girls, extrait de l'album For Golden Country sorti en 1995 sur Fat Records. Un groupe californien formé à la fin des années 80, séparé en 2007, puis reformé il y a environ 3 ou 4 ans. Good Riddance, c'est le mix parfait de hardcore mélodique, de punk rock et de punk hardcore. Un groupe un peu à part dans le catalogue de Fat Records, hein, puisque c'est un label qui a en son sein quasiment que des groupes de ce que j'appelle de party rock ou de party punk rock, alors que Good Riddance, c'est un groupe assez sérieux, engagé politiquement, en tout cas concerné. Le chanteur est straight edge, vegan, plus proche de propagandie ou vraiment du punk hardcore underground que des délires à la NoFX, à la Pennywise et à la No Use for a Name. Donc ça, on l'a jamais précisé, mais effectivement, c'est un groupe qui peut presque être affilié à la scène straight edge, hein, finalement, même si tous les membres ne le sont pas. On va dire que c'est un son équidistant entre Black Flag, ok, d'un côté, le punk anglais. De la fin des années 70, voire du début des années 80, et des Descendants, voilà, pour le côté plus frais et plus bubblegum. Finalement, un groupe qui ne ressemble à rien, parce que quand on cite le hardcore mélodique et ensoleillé californien, on pense à No Use, on pense à NoFX, on pense à Pully, on pense à ce genre de groupe, mais Good Riddance, clairement, c'est un groupe différent. Le chanteur Russ Rankin chante également dans Only Crime avec le batteur des Descendants, justement. Good Riddance, je les ai vus deux fois en concert, une fois en 1995, il y a 20 ans déjà, alors qu'ils faisaient la promo de cet album. Ils ouvraient pour No Use for a Name qui tournait, eux, pour l'album Lecce Con Carne. Donc je me rappelle d'une grosse soirée à Pontarlier, il devait avoir 600 ou 700 personnes, hein. C'était les grosses, grosses années du style, ça arrivait en Europe, tout le monde devenait fou. Là, du coup, c'est plus la même, hein, parce que j'ai vu le groupe le mois dernier à Besançon dans le club de la Rodia, qui est la smack de la ville, là, et on était difficilement 150. Donc voilà, 20 ans ont passé pour le style, hein, c'est un peu dur, mais pour eux, les mecs sont toujours aussi frais et aussi verts. C'est le même line-up, aucun changement. Belle prestation. Les mecs ont un peu vieilli, sont un petit peu moins fougueux, mais en tout cas, ils sont là et ils envoient la purée comme on aime. Voilà pour Good Riddance. Encore une autre petite anecdote qui, moi, me plaît bien. Le Russ Rankin, le chanteur, est un recruteur dans une équipe de hockey. Hein. Ça, j'aime bien quand il y a ce côté rock, punk, musique et sport, hein. Ça c'est un truc que les Américains arrivent bien à faire. Et c'est un
Ouais,
truc
tout à fait,
qu'on
ouais.
ne prend pas toujours en France, en Europe, qu'on puisse faire du rock, être sportif. Mais je vous rassure, il y en a, heureusement. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Piece of Time, voilà, que j'ai acheté en LP il y a 2 mois, qui est également de très bonne facture. Rien de nouveau, toujours du punk rock mélodique, punk hardcore vénère, speed très mélodique. Voilà, bon, c'est du Good Riddance. Là, on va s'écouter le morceau Boys and Girls, le morceau que je préfère de leur premier album. Seb, qu'est-ce que tu as à dire sur Good Riddance?
Alors, je vais pas parler musique parce que tu as très très bien résumé la chose. Tout à l'heure, on parlait de la pochette bien dégueulasse de Frank Black. Il faut absolument qu'on dise un mot sur la pochette de For God and Country, qui moi à l'époque m'avait bien marqué. Tu connais forcément Sam puisque tu as l'album et on voit effectivement, je crois qu'il y a 7 ou 8 soldats américains en train de porter un cercueil qui est drapé de la bannière étoilée.
C'est
Ça
ça.
avait bien marqué son temps, ça, à l'époque, cette pochette. Tu te rappelles?
Je me rappelle plus l'impact que ça avait eu, mais je me rappelle que je faisais, quand c'était sorti et que j'avais acheté ce disque à l'époque, que je faisais clairement la différence entre ce genre de visuel et genre Ten Foot Pole ou Rich Kids on LSD, si tu veux.
Ouais.
C'était vraiment un artwork qui était lié au punk engagé, quoi, tout simplement,
Ah
quoi.
oui, parce que là, pour eux, c'était en fait une manière de dénoncer la guerre en Irak qui était menée par l'Amérique, et aussi de montrer à tout le monde que cette guerre n'était, enfin, du point de vue de l'image, c'était aussi des soldats qui étaient tués, des soldats américains, et qu'on renvoyait au pays, et que c'était des images qui, à l'époque, étaient plutôt camouflées et laissées à l'écart des médias pour ne pas choquer le peuple américain. Et justement, ça avait été une manière pour Good Riddance de remettre un petit peu tout ça dans cette perspective-là, quoi, et de remettre en fait le fait que cette guerre était meurtrière pour le pays et que personne n'en parlait. Et là, on retrouve, comme tu disais tout à l'heure, le vrai engagement politique de ce groupe.
Voilà, c'est ça. Je précise encore une chose, c'est Russ Rankin, hein, je reviens sur lui parce que c'est vraiment un personnage que j'aime vraiment bien, qui est certainement sur scène, dans le monde de la musique, toujours confondu, le mec le moins souriant que j'ai pu voir sur une scène. Donc, j'apprécie quand les mecs, pas tirent une gueule de 100 pieds de long, mais quand ils ont une certaine, ils dégagent une certaine intensité, tu vois, surtout avec les paroles délivrées, les sujets qui sont traités, voilà. Mais lui, c'est vraiment troublant parce que même sur scène, à un moment donné, il y a un mec qui jonglait, ils ont fait monter le mec, donc tout le monde speedait, machin. Et donc le ton était plutôt à la farce, tu vois. Mais le mec a pas souri, mais il n'a pas un rictus, quoi, tu vois. C'est assez troublant, mais en tout cas, Russ Rankin, un grand respect. Et encore un mec qui a du mal à sourire, mais voilà, moi je les apprécie. On s'écoute Good Riddance.
Allez, on continue à éplucher notre sélection du jour. On va continuer avec les Breeders. Tout à l'heure, on parlait de Frank Black. Ben, les Breeders, projet, ou plutôt autre groupe de Kim Deal, la bassiste des Pixies. Alors, avec No Aloha, le titre que j'ai choisi, on va donc remonter à 1993. Alors, c'est le type même de disque saisonnier en ce qui me concerne, The Last Splatch. Tout simplement parce qu'en fait, dès qu'arrivent les premiers jours de juillet, je trouve que ça, il ressurgit d'office dans mes playlists tous les ans, avec son lot de forcément de mélancolie, mais c'est un album vraiment que j'adore et qui, en fait, vient squatter la platine pendant le temps d'un mois et puis après redisparaît presque jusqu'à l'année suivante. Bon, mais cette année, on va pas y échapper. Je profite donc de l'émission pour vous en faire profiter. Alors, forcément, les Breeders, tout le monde remonte à ce fameux été 93 avec le méga tube Cannonball qui passait partout, sur toutes les radios. C'était un énorme tube rock. J'aurais pu choisir Cannonball, mais à force, tout le monde connaît. J'ai préféré plutôt prendre No Alloy, qui sonne plus pixien que les Pixies. Et j'en ai profité aussi pour prendre quelques nouvelles sur le groupe. Sachez que les Breeders, ben, ils sont actuellement en studio. Ils préparent un nouvel album qui certainement verra le jour, je pense, en 2017, parce que ça avance tout doucement, tout doucement. Et aux dernières nouvelles, la petite chanteuse australienne Courtney Barnett devrait être sur ce nouvel album. Et voilà, ben moi, écoute, je suis toujours resté fidèle en fait au disque des Breeders des années 90, mais c'est vrai que j'ai un peu moins suivi là les derniers trucs qu'ils ont fait. Je suis un peu largué là après, mais par contre, c'est vrai que ceux des années 90 et en particulier The Last Splatch, il reste un disque que j'ai plaisir à écouter.
Ah ben oui, carrément. Un des grands albums de la sphère indépendante américaine quand même, voire mondiale, hein, cet album. Pour moi, Cannonball, qui était un des moins bons morceaux de l'album, hein, de loin. Je sais pas
Ah
ce que
oui, de
t'en
loin,
penses.
ouais.
Ouais,
Bah, tu prends un truc comme No Alloy, il est
ouais.
bien meilleur, je trouve. Hein.
Bah, tous les titres sont monstrueux. D'ailleurs, on reprenait un titre dans la formule acoustique de Teenage Mixtape, extrait de cet album, et je me rappelle plus du titre, mais voilà, c'est un morceau qu'on a trimballé pendant quelques mois sur des scènes en version acoustique. Voilà, c'était cool à jouer. Bah, écoute, hein, je crois que tu as bien tout dit sur ce groupe. Un album que vous pouvez racheter pour quelques centimes sur Amazon ou sur Price Minister. Voilà, c'est pas un album qu'on ressort facilement. Je veux dire, on n'y pense pas, c'est tellement évident. Hein. C'est ce genre d'album qu'on marquer les gens, que tout le monde a écouté, parce qu'en France, ça a cartonné, particulièrement en France, et que c'est pas des albums qu'on ressort facilement, je sais pas pourquoi, mais quand moi, personnellement, je leur pose sur ma platine, ça me fait vraiment du bien, tu vois, et je me dis, tiens, mais pourquoi t'écoutes pas cet album plus souvent? Voilà. Donc, je vous conseille de vous le racheter, ça coûte rien, réécoutez-le, hein, une fois tous les 3-4 mois, et vous aurez de bonnes sensations. Voilà. On va écouter.
Exactement, ça fait du bien.
On s'écoute les Breeders.
No bye, no aloha.
On arrive à la dernière ligne droite de notre sélection, c'est-à-dire les sélections françaises. Distant Winter, le morceau s'appelle Lithopédion, extrait de l'album du même nom Lithopédion, sorti en 1994 sur le label Votre Musique. Donc si on me pose la question, un des meilleurs groupes français des années 90, complètement passé dans l'oubli et qui avait eu à l'époque son petit quart d'heure de gloire, hein, aidé par une campagne promo plutôt efficace dans la presse nationale. Un groupe de Tours sur lequel il est devenu très difficile de trouver des infos, hein, même sur le net. Donc ils n'ont sorti qu'un album, ça c'est sûr et certain. Pour le reste, c'est un petit peu le flou, le mystère plane. Moi, c'est un groupe que j'avais découvert via le magazine Rage, voilà, via une interview de 2 ou 3 pages et d'une excellente review. Qu'est-ce qu'ils envoyaient? Du rock quand même bien sombre, plutôt lourd et rampant, typique des années 90. Un rock saturé, mais toujours mélodique, voire mélancolique. Hein. Donc pour moi, c'est une sorte de Noir Désir très musclé, mixé aux premiers albums de Young Gods, hein, et même qui parfois peut rappeler un certain sens du riffing qu'avait le Rollins Band. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur Distant Winter, Lithopédion. Ça, par contre, c'est un album que je ressors très, très, très souvent. Très bizarre qu'on n'en parle pas plus. Très bizarre qu'on mentionne pas ce groupe dans des fanzines, dans des articles un peu nostalgiques et ce genre de choses. Le disque est trouvable plutôt facilement et pas cher sur Price Minister et Amazon aussi. N'hésitez pas, voilà. Il y a un petit côté No One Is Innocent du tout premier album. Hein. J'ai jamais pu supporter ce groupe No One Is Innocent, mais le premier album avec la première mouture du groupe, le backing band était plutôt excellent et là aussi un lien évident avec le Rollins Band. Donc si vous aimez ce genre de rock 90 un petit peu crossover, hein, qui tapait dans plusieurs directions, n'hésitez pas. Distant Winter, comme au début de No One Is Innocent, les lyrics sont en français et en anglais. Donc il y a des morceaux en français et en anglais. Voilà, bon, en tout cas, c'est un groupe qui sonne très 90. Voilà. La production, malheureusement, a très mal vieilli, dommage. Pour le reste, de A à Z, cet album est un chef-d'œuvre. Seb, est-ce que tu avais écouté ce groupe-là à l'époque ?
Bah écoute, ça va être l'occasion pour moi de découvrir parce que effectivement du magazine Rage que j'ai dans mes archives, je l'avais pas écouté à l'époque, donc ça va être l'occasion de découvrir ce groupe qui, comme tu disais, n'a pas laissé beaucoup de traces et visiblement, à ce que tu dis, c'est bien dommage, hein.
Ouais. Donc on s'écoute ce morceau-là, Lithopédion.
wheels turn to older than your phone.
Allez, on arrive quasiment à la fin de l'émission. On va parler de ma sélection française à moi. Et perso, donc, je vous propose Dead End, un groupe de Strasbourg, un groupe de punk rock qui est mené par un personnage, c'est tout ce qu'on peut dire, dénommé Wati. J'imagine que tu le connais, Sam.
Wati, alors le connaître, ça serait peut-être exagéré, mais ouais, j'ai croisé Wati donc avec son groupe Dead End. On a partagé l'affiche d'un concert à l'époque où je jouais dans Second Rate, au tout début de Second Rate, avant même qu'on sorte un disque. Hein, on évoluait encore sous le format cassette démo. C'était à la fin des années 90, 98 peut-être, 99 maybe, juste avant qu'on signe sur Kérosène. Voilà, donc un concert qu'on avait joué dans les coins de Kérosène, hein, dans les Vosges ou quelque part. Voilà, donc moi, je l'ai rencontré qu'une seule fois, Wati.
Ok, et donc j'ai choisi Hard to Live, un titre qui est extrait de leur premier album qui était sorti en 98 chez Dialectic Records. L'album s'appelait Ain't No Cure. Alors, ben, concernant Dead End, ben, en fait, comme on disait juste avant cette émission, Sam, c'est vraiment un groupe qui sonne un peu à la NRA, un bon mix de punk mélo et d'influence parfois de punk un peu plus british, on va dire. C'est un très très bon album. Bon, derrière, Dead End a une carrière un petit peu chaotique. Ils ont pas mal galéré, mais aux dernières nouvelles, Wati est toujours en activité. Je sais pas si c'est sous la forme d'un groupe, mais il est toujours en activité et paraît-il qu'un nouvel album est sur les rails. On essaiera d'aller écouter ça quand ça sortira. Voilà, voilà.
Donc oui, donc moi je dirais quand même, hein, pour être clair, que Dead End égale Wati, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de changements de line-up. À l'époque, on les avait croisés, comme je te l'expliquais, c'était le groupe Exxon Valdez, qui eux tournaient beaucoup à l'époque. Je me rappelle de cette période-là. Donc ensuite, il a changé de musicien plusieurs fois. Et c'est un groupe qui a très très peu tourné. Donc qui tournait peu à l'époque et qui a cessé complètement de tourner à partir des années 2000, je pense. Hein. Donc je sais pas, ça a dû faire 4 ou 5 concerts en 15 ans. Hein. Je pense que j'exagère pas si je précise ça. C'est un peu dommage puisque je pense que l'essence de cette musique, on l'apprécie sur scène. Pour moi, c'est quand même un style qui doit être vécu dans un van et sur une scène. Le studio, c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut sauter dans la fosse au lion, quoi. Donc, et voyager un petit peu. Donc voilà, je sais pas si on verra un jour Wati sur scène avec son groupe, je sais pas. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer à Strasbourg, hein. Il est de Strasbourg, des dizaines et des dizaines de fois, et je l'ai jamais croisé. Donc voilà, je sais pas s'il reste connecté à ce qui se passe musicalement dans la scène plus ou moins indépendante française, européenne, internationale, mais en tout cas, je peux pas vous en dire plus. Je ne l'ai jamais revu depuis 1998 ou 1999. Donc on va s'écouter ce morceau-là, ouais, qui effectivement, déjà à l'époque, j'avais saisi cette ressemblance assez frappante avec NRA. Voilà. Et la voix, il y a un gros côté du chanteur de Cure, Robert Smith. Voilà. Enfin, moi, ça,
tout à fait, ouais. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est un truc qui ressort effectivement bien, ouais. On sent bien cette influence aussi. Ouais.
Voilà, on va s'écouter ça, Seb, et puis on va se dire au revoir, hein, tout simplement.
Ouais, à très bientôt, Sam. Je te souhaite en tout cas un bel été.
Ouais.
J'imagine que ça va bosser.
Ouais, ça va bosser et ça va rester à l'ombre, c'est sûr et certain, puisque je déteste le soleil. Et on va se retrouver, toi et moi, à la rentrée, hein, fin août, pour un épisode de rentrée du podcast Smells Like Teen Music. Et on essaiera cette fois de ne pas louper d'épisode, ok?
On loupera pas, promis. À bientôt, Sam.
Bon, faites attention au soleil. Hein, il faut boire beaucoup d'eau, faire quelques séries de traction et de pompe. Et normalement, on devrait pouvoir se revoir fin août sans aucun problème. À bientôt, les gars. Ciao.
Salut à tous. Bye.